compte de Yaya Coulibaly, réalisé courant avril-mai 1980. Il était mille et une fois. Devinette, qui suis-je? Depuis les temps les plus reculés, je protège notre mère nourricière. Mais à l'heure actuelle, personne ne veut plus reconnaître mes bienfaits. C'est grâce à moi que votre progéniture aura une terre fertile et de beaux pâturages. Alors, qui suis-je? Notez bien, éduquer en divertissant la société, c'est le principe de ce jeu. Yaya Coulibaly. Répondez, merci. Le plaisir du soir. Il était mille et une fois. Plaisir du soir. Tout le jour, le village a semblé dormir, épuisé par la chaleur du soleil. Mais dès que le soleil décline à l'horizon, il revit et s'anime. Tous les oiseaux, tous les rapaces et les hommes les recettent silence des cimes et des fromagers et font des grandes rondes dans le ciel. Dans les concessions, les femmes activent les préparations du repas du soir. Les fêtes transportent l'eau dans les calebasses posées, bien en équilibre sur leur tête, et revient de se voir très mouillé. Les cultivateurs, la peau sur l'épaule, rejoignent leurs cases. Aux alentours, les bergers qui rassemblent leurs bœufs dans les parcs poussent de longs cris et les bêtes beuglent. Voici la nuit. À l'intérieur des cours, les vieilles sont assises. Les jeunes enfants les entourent et écoutent les histoires du sourd, les histoires du gourmand. Mais ce ne sont les histoires des lionnes et du lièvre qui les amusent le plus. Dans les rues, sur la place du village, on parle, on rit, on se prépare à la danse. Les jeunes filles par groupe organisent les jeux. Elles chantent de leur voix aiguë et monotone. Les battements de leurs mains et les cris perçants des enfants dominent la rumeur du village. Par moments, des chants de femmes remplissent les creux de silence. C'est une fiancée qu'ils ont faite alors qu'elle rejoignit la maison de son époux. La lune ronde monte dans le ciel. Alors, le balafon égrène ses notes dans la nuit claire. Ses notes teintent comme des appels. Très vite, une foule se presse autour des joueurs et sur la place, les enfants sautent, crient, courent à perdre haleine. La danse commence joyeuse. Trois jeunes filles accompagnent des jeunes gens font des pas au milieu du cercle des spectateurs qui rient et applaudissent pour les encourager. Les joueurs tapent de plus belle sur les balafons, les tam-tams et autres instruments de musique. La poussière monte, la sueur coule. De nouveaux danseurs pénètrent dans le cercle et la danse devient endiablée. Après cette danse, le village retrouve son calme. C'est l'heure où commencent les contes et les récits sur nous. Un rêve. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Bala. Il habitait à la campagne avec ses parents. Derrière la maison de ses parents s'étendait un grand jardin avec des fleurs et des arbres. Tout au fond du jardin commençait un grand bois. Bala allait souvent jouer jusque-là. Il poursuivait les merles noires qui volaient de buisson en buisson. Il ne réussit jamais à les attraper. Dans le bois, Bala voyait aussi très souvent jouer les mêmes petits écureuils. Ils sautaient de branche en branche, bondissaient dans les airs d'un arbre à l'autre. Dans le bois, Bala rencontrait aussi des petits lapins. Ils étaient gentils. Un jour, il faisait très chaud. Bala avait beaucoup couru à la poussée des lapins et des merles. Il avait grimpé aux arbres pour surprendre les écureuils. Il n'avait attrapé ni les merles, ni les lapins, ni les écureuils. Il était si fatigué d'avoir couru qu'il s'arrêta au pied d'un grand arbre. Là, assis par terre, le petit garçon s'endormit. Il s'endormit et rêva. Dans son rêve, Bala parlait tout haut. Il disait, Ah, si j'étais un beau merle noir. Ah, si j'étais un gentil écureuil. Ah, si seulement je pouvais être un petit ou un tout petit lapin. Dans le bois, une fée passait. Elle s'approcha du garçon endormi. Elle l'entendit parler tout haut. « Je suis la fée du bois, » dit-elle. « Tu t'es endormi, petit garçon, et tu rêves. »« Oui, je rêve, madame la fée. »« À quoi rêves-tu donc ?»« Je rêve, madame la fée, que je suis un petit merle noir, un petit écureuil à longue queue, un petit lapin aux longues oreilles. » Il faut choisir, petit garçon, dit la fée. Que voudrais-tu être? Un merle? Un écureuil? Ou un lapin? Madame la fée, je voudrais en être un petit lapin. La fée toucha le petit garçon endormi du bout de sa baguette magique. Sois content, petit garçon. Pendant tout un jour, tu seras un grand gentil lapin. Oh, merci, madame la fée. Écoute-moi bien. Tu seras tout un jour un petit lapin, mais dans les prés, dans les bois, tu entendras sonner l'heure. Tu sais, drang, brach, rik, la cloche qui chante. Tu sauras qu'il est 1 heure, 2 heures. Tu sais compter?
Oui, madame la fée.
Tu seras petit garçon, un gentil lapin, jusqu'à ce que la cloche sonne 10 fois. Tu entends? 6 heures. Allez, joue bien avec tes frères, les petits lapins à courte queue. La fée disparut. Voilà, c'est réveillé. Il se frotta les yeux. Il avait très chaud car le soleil était brûlant. Il courut jusqu'au ruisseau pour boire dans les creux de sa main. Il courut et arriva au bord du ruisseau. Quand Bala a voulu boire au creux de sa main, il s'est aperçu qu'il n'avait plus de main. Non, bien sûr, il avait des pattes et au bout des pattes, des petites griffes pointues. Bala se pencha au-dessus de l'eau pour boire du bout de sa langue. Et dans le miroir du ruisseau, le petit garçon vit sa nouvelle image. Il avait de longues oreilles, il avait des petits yeux rouges, des yeux de lapin et une fourrure avec des taches blanches sur la poitrine et au bout des pattes. « Ça y est !» s'écria Bala tout joyeux. « Je suis devenu un petit lapin. » Et le voilà qui saute de joie. Dans une clairière, il aperçut toute une troupe de petits lapins qui jouaient. Ils dansaient une ronde enjamblée. Bala prit sa place dans la bande. Il se mit tout au bout sur ses pattes et il se mit lui aussi à tourner en rond. Un rêve. Oh, quelle étonnante histoire. Tout d'un coup, quelle débandade. Voilà tous les lapins qui se sauvent à travers le bois. Bala n'a pu bouger de place. Lui n'a rien vu. De quoi ses petits frères ont-ils eu peur? Du renard! Bala vient de le voir. C'est renard. Il a une tête au museau pointu, une langue rouge. Le renard a vu le petit lapin. En 3 bonds, il va se précipiter sur lui, pour le manger bien sûr. Notre petit lapin prend la fuite. Bala se sauve à toutes pattes. Mais pourra-t-il échapper au croc du renard? Vite, vite, vite! Oh, ouais, oh. Le renard va le rattraper. Non, quelle chance! Voici devant Bala un autre lapin, un vieux, qui se sauve aussi tant qu'il peut. Bala voit le vieux lapin qui disparaît dans un trou entre les racines d'un gros arbre. C'est un terrier. Sauvé, il était temps. D'un coup de gueule, le renard a arraché une touffe de poils à la queue du petit lapin. Mais maintenant, Bala ne craignait plus rien. Il s'est fourré à la suite du gros vieux lapin dans le terrier. Il est à l'abri. Notre petit lapin est resté là longtemps. Comme avait dit la fée, il entendait sonner les heures, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 10 heures. Et le renard qui restait toujours au bord du trou. De temps en temps, le petit lapin s'approchait de l'ouverture du terrier et risquait un œil. Enfin, le renard n'était plus là. À petits pas, le jeune lapin sortit de sa cachette. Il sortit du bois et arriva dans la prairie. Il commença à brouter l'herbe verte. Deux ou trois pigeons blancs s'étaient posés auprès de lui. « Je vais jouer avec eux, » se dit le petit lapin. Il s'approcha et aussitôt les oiseaux blancs s'envolèrent.
« Tiens !»
Il les a fait peur. Pourtant, les lapins ne mangent pas les pigeons. Et tout à coup, il vit l'herbe. Il vit sur l'herbe une grande ombre noire. Le petit lapin leva les yeux. Et que vit-il? Un oiseau aux ailes immenses qui planait au-dessus de sa tête. Il fallait encore s'enfuir. Et il courait, il courait, il courait. Mais sur l'herbe, l'ombre noire glissait aussi vite que lui. Et alors là-haut, que se passerait-il? Là-haut, l'aigle déchirait en morceaux le malheureux petit lapin. Le petit lapin, affolé, courut jusqu'au bois. Il sauta d'un bond le ruisseau. L'ombre disparut. L'aigle planait au-dessus des arbres. Il ne pouvait plus voir le petit lapin. Le petit lapin s'arrêta au pied d'un arbre. Et le petit lapin ne savait pas si c'était son cœur qui faisait tout ce bruit dans sa poitrine ou bien la cloche qui sonnait les airs. Le petit lapin avait la gorge sèche. Il avait tellement couru pour échapper au renard, puis à l'aigle, il se traîna jusqu'au ruisseau. À ce moment, la cloche sonna six coups. 6 heures, le petit lapin se pensa au-dessus du ruisseau et il aperçut son image dans le miroir des eaux. Il n'avait plus de longues oreilles, il n'était plus un petit lapin. Il revint en courant vers sa maison. « D'où arrives-tu, Bala ?» demanda sa maman. « Je viens de courir à quatre pattes. »« Comme si tu étais un petit lapin, » dit sa maman. « Oui, exactement maman, comme si je l'avais été un petit lapin. » « Eh bien, sois content, » dit sa mère. « Ce soir, à l'heure du dîner, j'ai justement fait un bon plat de carottes et de choux. »« Tu aimes les carottes, Bala ?» Et Bala fait la grimace parce que ce petit garçon qui rêvait d'être un petit lapin n'aimait pas du tout les carottes. Fin de seconde. Merci. Les crapauds. Un jour, Bawaya Waya, le crapaud rencontra la fille du Kalao. Il la demanda en mariage et l'épousa. Un autre jour, le vieux Kalao, dont la vue avait beaucoup baissé, vit sur un chantier un crapaud. Il saisit le malheureux et l'avala. Dire, pensa Kalao le vieux, dire que j'aurais pu terminer mes jours déjà si longs sans connaître cette chair succulente et le goût d'un crapaud serait pour moi absurde. Revenu au village, il raconta la chose à son griot. Maître, dit celui-ci, il ne tient qu'à toi de te régaler de bonne viande. Mais comment faire? Interrogea Kalao. Maître, un gendre refuserait-il jamais à son beau-père une journée de travail au champ? Non, évidemment. Demande donc à ton gendre de t'aider à retourner ton champ. C'est ton bon fils. Il viendra avec ses amis et les amis de ses amis. Et les amis de ses amis. Quand Kalao le vient envoya dire au mari de sa fille qu'il était temps qu'il vienne lui prêter ses bras, car le temps des semailles approchait, le gendre crapaud répondit qu'il était trop heureux d'aider son beau-père. Le lendemain, griot et tam-tam en tête, le gendre et ses amis se mirent en route au premier champ du coq. Ils se rendirent tous trois au champ du Kalao le vieux. Parenté, mesdames, parenté, mesdames, parenté, mesdames. Tam Tam et Chien réveillèrent les habitants du village. Aussitôt, le griot de Kalao le vieux courut dire à son maître. Maître, je crois que le festin est prêt. Kalao le vieux, ses enfants et ses amis s'envèrent vers le champ qu'ils entourèrent de tous côtés. Puis ils se précipitèrent sur les crapauds occupé à arracher les mauvaises herbes et à retourner la terre. Griots et musiciens furent avalés les premiers, puis ce fut le tour des autres. Sautillant, bondissant, boitant, les malheureux cherchèrent et bien s'enfuir, mais ils finirent tous dans la nuit noire des ventres des calots, sauf trois qui réussirent à se sauver. Fin de ce conte aussi. Kabako. Ils s'appelaient ainsi parce qu'ils étaient très étonnants. Un jour, un petit caillou et un gros caillou partirent ensemble à la chasse. Le petit caillou tua 10 oiseaux. Le gros n'en a bâti que 5. Le gros caillou dit au petit, « Compagnon, mangeons tes oiseaux sur place. Arrivés à la maison, nous partagerons les miens. » « Soit !» dit le petit caillou qui n'avait qu'un désir. « Manger beaucoup, manger souvent et devenir un gros caillou, comme son grand frère. » Il dégénérait sous un arbre, bure à la source et reprit de concert le chemin du village, à côté d'un grand baobab. Quand ils furent arrivés au village, dans leur case, le petit caillou dit au gros, « Grand frère, il serait temps de partager nos butins. »
« Quoi ?»
dit le gros caillou.
« Quoi ? Ton gibier ?»
Et j'ai réfléchi. « Mangeons, grand frère. Je voudrais bien faire cadeau de cette viande à ma grand-mère. Tu ne m'avais pas dit que tu avais une grand-mère ?» dit le petit caillou. « C'est la première fois que j'entends parler de cette grand-mère-là. Tu ne connais pas toute ma famille, dit le gros caillou. Et ce n'est pas un minuscule comme toi qui va m'empêcher de faire présent de ce gras gibier à une grand-mère caillou dont j'aurais pu te parler plus tôt, car j'ai toujours eu pour elle une très grande tendresse. » Ah, le petit caillou crut comprendre qu'on se moquait de lui et il entra dans une violente colère. Il se jeta sur son camarade et ce dernier, peu courageux pour éviter les coups, sauta sur une queue de serpent. Et tout le mal vint de là. Kabako. Étonnante histoire. Le serpent siffla et mordit au pied le crapaud. Le crapaud passa sous le pied de l'éléphant qui glissa. L'éléphant tomba sur un mur qui, en s'écroulant, écrasa une vieille femme qui portait un fagot. Le fagot tomba, cassant 3 dents à un chien qui mordit son maître, un chasseur. Quelle étonnante histoire, mes amis. Dans sa surprise, le chasseur lança sa flèche sans viser et la flèche alla clouer en un arbre un malheureux perroquet dont le sang fit une fontaine. Puis une source, puis un fleuve, puis une grande mare immense se répandit dans la vallée où jouaient les enfants du roi. Quelle étonnante histoire. Kabako. Et les enfants du roi se noyèrent tous dans le sang du perroquet. Grande réunion à la cône, des oreilles des conseils du roi. On étudia l'affaire. On sut qu'un perroquet était mort. On sut qu'un perroquet était mort d'une flèche partie des mains d'un chasseur mordu par son chien qui avait eu 3 dents cassées par le fagot d'une vieille femme. Il fallut moins d'une heure pour savoir que cette vieille avait été renversée, elle et son fagot, par un mur dans quoi avait buté un éléphant qui avait glissé sur un crapaud piqué par un serpent que le gros caillou avait un peu déchiré à la queue. On connut la querelle des deux cailloux, Kabako. Et on rut bruyamment à la cour du souverain, car dans le même moment, on apprenait que les enfants du roi avaient été entraînés dans le courant, mais ne s'étaient pas noyés dans le sang du perroquet. On fit rendre au petit caillou son gibier. Quant au gros, le roi le fit porter en son palais. On peut le voir au-dessous de la grande porte des gardes d'honneur. Le roi l'a fait sculpter par un des plus brillants artistes de son pays. Dans la pierre dure, on peut voir dans un dessin parfait un serpent mordre un crapaud qui fait glisser l'éléphant lourd dont la chute entraîne un mur écrasant la vieille au fagot. On voit le fagot casser les dents au chien qui mord son maître en même temps que par la flèche qui cloue à un arbre le perroquet dont le sang faillit bien noyer les enfants du roi. Et voici l'histoire d'un gros et d'un petit caillou qui aurait mieux fait de manger tout le gibier de leur chasse sous l'arbre qui abritait une chose vieille, un baobab, Kabako. Ainsi se termine cette histoire, cette étonnante histoire.
Merci!
Papa, qu'est-ce que...
Le francolin, c'est la perdrix d'Afrique noire qu'on en trouve des centaines de milliers au Mali. Le francolin avait faim et ne trouvait rien à manger. Un jour, il alla donc consulter le sorcier du village. Celui-ci lui dit d'aller sur une piste et de guetter. Dès qu'il verrait les femmes revenant du marché et portant leur charge de mille en équilibre sur la tête, il n'aurait qu'à étendre sa tête sur le chemin. Quand les femmes s'approcheraient, il n'aurait plus alors qu'à battre des ailes. Les calebasses des femmes tomberaient et le mille se répandrait à terre, en vrac. En ramassant leurs grains, les femmes en laisseraient sûrement et le bec du francolin le ramasserait facilement. Ah, merci de tes sages conseils, grand maître sorcier. Le francolin s'est dit que le sorcier lui avait donné une bonne idée, mais que lui-même pouvait mieux faire encore. Il étendit donc son aile droite du côté du soleil levant et il étendit son aile gauche du côté du soleil couchant. Puis il se coucha à terre en étalant sa queue sur la piste. Les femmes arrivent, se suivant à la queue leu-leu et portant leur calebasse en équilibre sur la tête. Celle qui venait en tête mit son pied sur la queue du francolin qui se mit à battre des ailes pour se dégager, mais les plumes de la queue s'arrachèrent et restèrent sur le chemin. Les calebasses des femmes tombèrent et tout le mille se répandit à terre. Elle se mit alors à les ramasser. Quand elle eut ramassé quantité de grains, restèrent dans l'herbe. Les femmes se remirent en route pour gagner leur demeure. Le francolin appela alors ses femmes et ses enfants qui accoururent et se mirent à picorer tant qu'ils le pouvaient. Tous les jours, de grand matin, ils revenaient. Un grain de mille pourtant était tombé dans un trou. Le francolin le voyait bien, mais son bec ne pouvait l'atteindre. Il se mit à gratter de ses pattes pour dégager le grain. C'est depuis ce temps qu'il gratte la terre. Sa queue autrefois était longue, mais depuis cette aventure, elle est courte. Fin de ce conte aussi. Merci. L'espoir perdu. Un chasseur rentrait chez lui sans perdreau, sans lièvre dans son sac. Il était tout dessus de rentrer et voir ses enfants affamés sans un cadeau de la chasse. Oh, quel malheureux chasseur. Tout à coup, comme il arrivait près d'une ferme, il aperçut sur une petite mare une famille de canards domestiques. À quelques pas de là, assis sur un tronc d'arbre, pas loin de la ferme où personne d'autre ne se montrait ni aux portes ni aux fenêtres qui étaient fermées, un paysan fumait tranquillement sa pipe. « Bravo !» lui dit-il, le chasseur. « Combien ça me coûterait-il pour tuer une de tes jolies bêtes qui ressemble à des canards sauvages ?»« Je n'en sais rien, » répondit l'homme. « 2 francs, ça serait-il assez payé? Si vous voulez, dit l'homme qui fumait sa pipe.
Bon,
se dit le chasseur, ça n'est vraiment pas cher. Il posa 2 francs sur le tronc d'arbre qui servait de banc aux paysans, ajusta son canard et le tua.
Bonjour l'ami, bonjour, ah bonjour.
Le paysan empochait les 2 francs quand le chasseur qui s'éloignait, se ravissant tout à coup, revint sur ses pas. Hé l'homme, j'ai bien envie d'en tuer encore un de tes beaux canards. Ils ne sont pas chers. L'homme ne répondit pas.
Allons, laissez-moi faire. Tenez, voilà cette fois-ci 3 francs.
Et il déposa 3 francs à côté du paysan qui les prit et les mit en poche. 3 et 2 francs font 5. Le chasseur tua un second canard. Puis tout aussitôt, excité par la grande facilité de cette chasse et le bon marché du gibier, j'ai réfléchi, dit-il, qu'un 3e canard ferait bien mon affaire. Ça ne vous ferait rien si je vous tiens encore un de vos canards. Le paysan qui se trouvait assez payé tira de sa pipe une grande bouffée. Et il la rejeta avec ces paroles. Que voulez-vous que cela me fasse? Mes canards ne sont pas miens. Ainsi se termine aussi ce conte. Merci.
Fallet et le génie. Dans ces pays, il y a un terrain couvert de petites et de grandes brousses. On le voit très bien de la piste avant d'arriver au village, tout près du fleuve. Le fleuve est très profond. À cet endroit, il y a quantité d'hippopotames et de crocodiles. La brousse y est épaisse, avec de très grands arbres, des baobabs, des balanzans. Mais personne n'avait jamais, ne va jamais y chercher du bois, même pas du bois mort pour allumer le feu. Fallet décide un jour d'aller couper cette brousse pour y établir son champ et s'y fixer définitivement. Il s'écrie, tiens, voilà un terrain qui n'appartient à personne. Je vais le remuer. Les gens du village lui conseillèrent de ne rien faire, mais il prend sa hache et pénètre dans les taillis. C'est bon, c'est bon, c'est bon, dit Fallet. Il s'est mis à débroussailler, mais il n'a pas plus tôt entamé une liane que « Qui est-ce qui coupe ma brousse ?» demande tout à coup la grosse voix du génie. Le génie des génies, le roi des génies. L'homme a très peur, mais il répond tranquillement « C'est moi, Fallet, le brave paysan du village. » Je veux faire mon champ ici. Qui t'en a donné la permission? Reprend la grosse voix du génie, le roi des génies. Personne, dit l'homme effrayé. C'est bon, répondit le génie. Et le génie d'appeler ses sujets pour donner un coup de main à Fallet. 150 génies arrivent en riant. En moins d'un jour, tout a été débroussaillé. Fallet rentre au village et il y reste jusqu'à l'hivernage. Il attend la saison des pluies. Dès le lendemain de la première pluie, il va encore une fois dans ses terrains pour ensemencer son champ. Il porte une pleine jarre de mil sur sa tête et pénètre dans la clairière. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il se met à ensemencer son champ, mais il n'a pas plutôt enfoui un grand de mille dans le sol que « Qui est là ?» demanda tout à coup la grosse voix du génie, le roi des génies. L'homme a très peur, mais il répond tranquillement. « C'est moi, Fallet, je viens ensemencer le champ qu'on a préparé derrière moi. Qui t'en a donné la permission? Répond la grosse voix de Génie, le roi des génies. Personne, dit l'homme effrayé. C'est bon, répondit le génie. Et le génie d'appeler ses sujets pour donner un coup de main à Falé. 500 génies arrivent en riant. En moins d'un jour, tout a été ensemencé. Une semaine se passe et Falé retourne encore une fois sur ce terrain pour arracher les mauvaises herbes. Il emporte sa grande daba et pénètre dans son champ. Il se met à sarcler son champ. Mais Daba n'a pas plus tôt arraché une mauvaise herbe que « Qui est là ?» demande tout à coup la grosse voix du génie, le roi des génies. L'homme a très peur, mais il répond « C'est moi, Falé, je viens désherber le champ qu'on a ensemencé l'autre fois. Qui t'en a donné la permission ?» reprend la grosse voix du génie, le roi des génies. « Personne, dit l'homme effrayé. C'est bon, répondit le génie. Et le génie d'appeler ses sujets pour donner un coup de main à Falé.